d'emploi. Mode d'emploi. Mode d'emploi.
Donc, bienvenue sur Mode d'emploi, séquence secret de fabrication. Eh bien, voilà, ça fait maintenant un bout de temps que ça tourne, cette émission, et en fait, on s'aperçoit qu'à force de faire le tour de tous les endroits où ça résiste à la déshumanisation dans les lieux de travail, que ce soit des lieux de l'administration, que ce soit des lieux d'association, que ce soit des lieux de production ou de service, eh bien, en donnant la parole aux gens, on s'aperçoit que tout le monde résiste, en fait. Tout le monde résiste, mais pas en même temps. C'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu du mois d'octobre. Le mois d'octobre a été compliqué. On aurait dû tous bouger ensemble plusieurs fois et ça s'est pas fait. Bon, on va voir passer les choses. J'attire juste l'attention de mon public. C'est pas moi qui vais vous dire « Descendez dans la rue, allez manifester !» Non, chacun est adulte, on fera ce qu'on veut. Par contre, les choses se précipitent dans toutes les entreprises dont on a parlé en même temps. Dans tous les lieux de travail, la situation va empirer vers plus de précarité, vers plus d'isolement. Donc il va falloir apprendre à lutter dans des conditions extrêmement désagréables. Mais lutter, on fera. Parce que bon, ben, on a vu que on est tous pris dans la spirale infernale du travail. Et donc, il faut résister. Et on va continuer, nous, de notre côté, à vous faire partager avec d'autres personnes qui travaillent sur 106.3 FM, www.rfpp.net, les résistances, les bonnes idées, les difficultés, et le plus souvent possible les victoires qu'on peut obtenir en tenant tête et en se battant contre le Moloch. Et là, nous allons vous passer une petite séquence qui est un extrait d'une émission d'avril de cette année où nous avons interrogé des salariés de l'accueil des migrants, des salariés dans les dispositifs qui se mettent en place un peu partout dans la capitale, dans d'autres villes, parfois à la campagne. Pour accueillir des migrants, des personnes en situation de demande d'asile, qui sont bloqués dans toute leur vie, qui ne peuvent plus rien faire, souvent pas quitter le territoire parce que d'autres objectifs, notamment pour aller en Grande-Bretagne, mais pas seulement. Et puis qui sont parfois dublinés, à l'inverse, renvoyés dans des pays qui ne sont pas le leur, pas toujours. Parfois, ils ne peuvent même pas retourner dans leur pays. Et au pire, on a eu beaucoup cette année d'expulsion de gens vers des pays en guerre comme l'Afghanistan ou le Soudan. Donc il faut jamais oublier ça. Les gens qui travaillent dans les centres d'accueil des migrants sont toujours exposés à ce genre de situation. Il leur arrive de devoir accueillir des situations dramatiques et on leur demande de travailler dans des conditions moins que bonnes. C'est de ça dont on avait parlé un peu lors de cette émission d'avril. Et donc pour rappeler à tous un peu le sujet qu'on va aborder, on va vous passer un petit morceau de musique. Et donc voici Mia.
Motivé,
soyons motivés.
Motivé.
Et voilà, donc c'était Mia. Alors, comme vous avez pu le voir, nous on a dû se motiver d'abord et pour écouter cette chanson qui parle justement des migrants, puisqu'elle fait référence au film. Non, en fait, elle ne parle pas des migrants. Bah si. En fait, c'est compliqué. Donc, tout ça pour dire que nous avons de graves problèmes à RFPP, comme vous avez pu le constater. Non, très sérieusement, nous allons perdre le bénéfice des contrats aidés, qui sont en train de se mobiliser pour essayer d'avoir des CDI en bonne et due forme. Donc nous aussi, nous sommes sous le même coup que tout le monde, comme tout le monde a pu le constater, et comme on le constate souvent, malheureusement, en regardant cette émission, nous sommes sous le coup de l'exploitation et de l'injustice, on va dire, pour le coup. Et cette exploitation et cette injustice va se révéler dans ce qu'on va entendre de l'émission de ce mois d'avril, où on va entendre d'abord Margot et ensuite Iptissam parler de ce qui leur arrive quand on travaille justement dans l'accueil des migrants et ce qu'on est obligé de constater et de vivre au jour le jour.
Clairement, les bénévoles, l'État et l'État les veut comme pouvant servir de la soupe chaude et distribuer des couvertures de temps en temps, mais surtout pas comme des êtres pensants et des êtres politiques qui pourraient, par exemple, s'opposer à une OQTF ou avoir une vision critique de l'accueil ou de la gestion politique de la question migratoire aujourd'hui en France. Donc, un bénévole qui sert de la soupe à des migrants, ok. Un bénévole qui peut se questionner sur les conditions d'accueil, dehors. Et aujourd'hui, c'est bien ça qui est à l'œuvre. Et c'est ça qui est à l'œuvre pour la question des bénévoles, mais également pour la question des salariés. Puisque on passe, les structures recrutent effectivement des personnes sous-qualifiées qui ne sont pas... qui sont dans une notion de bienveillance à l'égard des migrants et de charité, mais qui ne sont pas des travailleurs sociaux, avec un projet, avec des objectifs, des gens qui savent analyser leurs pratiques et qui connaissent le droit et quelles sont les règles qui régissent l'accueil et qui acceptent donc de faire dans l'urgence, puisque comme Christophe nous l'a dit, le discours médiatique, mais le discours qui est aussi relayé par les institutions, c'est l'idée qu'on serait confronté à une vague de migration, à une force disruptive qui arriverait et qui emmènerait tout sur son chemin. Mais non, c'est pas du tout ça qui se passe. Aujourd'hui, en fait, on estime qu'il y a 1 million de personnes qui ont franchi les frontières de l'Union européenne.
Ça veut pas dire 1 million en France.
2016.
Ça veut dire dans toute l'UE.
Dans toute l'Union européenne, on a 1 million de personnes. Alors la question, c'est est-ce que nous, 500 millions d'Européens, on est en capacité d'accueillir 1 million de personnes. On parle de personnes qui fuient des pays en guerre. On parle de personnes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, est sorti ce chiffre, il y a 1000 personnes qui sont mortes noyées en Méditerranée depuis le mois de janvier. Il y a 5000 personnes l'année dernière en 2016. Il y a 3771 personnes qui sont mortes en 2015. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que des gens sont prêts à mourir pour quitter leur pays et que quand ils arrivent en Europe, ils sont pourchassés, maltraités. Et je sais que c'est peut-être des choses qu'on a déjà entendues, mais je pense que c'est important de le rappeler, surtout dans ce climat politique où on a l'impression que ces gens viennent profiter des bienfaits de la France et de l'Europe. Les bienfaits de l'Europe, c'est la Hongrie qui a autorisé les tirs à balles réelles par la police contre les migrants. Les bienfaits de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, autour de la structure Porte de la Chapelle, il y a 800 personnes qui dorment le long de l'autoroute. Quand je vous dis le long de l'autoroute, c'est il n'y a pas de barrière. Ils sont sur le terre-plein central de l'autoroute, Porte de la Chapelle. Donc on voit bien la violence sociale qui est infligée à ces personnes. Et cette violence sociale, ensuite on nous demande de l'excuser en tant que travailleur social. On nous dit « Et alors ?» Par le fait qu'on les laisse dormir au bord de l'autoroute, vous trouvez que c'est moins bien vous trouvez que c'est bien l'autoroute ? Oui ou non ? Et donc on est forcément contraint de dire « la boue, l'autoroute, non ». Bon, et donc nous, on propose une tente. Et vous, travailleurs sociaux, enfin association du social, vous allez gérer la tente de manière totalement inique et en collaboration avec la police. Parce que soit c'est la tente, soit c'est la boue. Et on ne laisse plus la place à un projet social de s'exprimer. D'ailleurs, on ne laisse plus. Mais c'est une logique qui traverse l'ensemble du travail social. On ne laisse plus la place au travail social. C'est-à-dire qu'avant, en fait, il y avait des associations, des équipes qui proposaient, qui repéraient une problématique et qui proposaient un projet pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, on en est totalement sorti. Comme l'a expliqué Elsa, les associations répondent à un appel d'offres. Donc, avant, l'offre qui était faite pour réparer le tissu social, pour permettre un accueil digne, elle émergeait d'une structure de terrain qui diagnostiquait un besoin et qui proposait un projet. Désormais, c'est l'État qui demande aux structures de terrain de
d'exécuter.
Et donc, on a changé totalement de logique. Et juste, je voulais juste finir sur la logique et le para-étatisme des associations. C'est qu'on en arrive à ce que les associations supplaient l'État, comme je le disais, par la prise d'empreinte ou la prise d'empreinte. Ou alors, par exemple, on a demandé et on a assisté à une scène surréaliste, et je vous invite tous à aller la voir sur YouTube, où le directeur de France Terre d'Asile, donc France Terre d'Asile, hein, qui est censée être une ONG qui permette l'accueil des migrants, dans la jungle de Calais, a fait lui-même le tri au faciès entre ceux qui étaient mineurs ou ceux qui n'étaient pas mineurs.
Ah, donc, c'est encore plus simple que le...
Les tests osseux qui sont déjà dénoncés. Ouais. On a le directeur de France Terre d'Asile qui, à Calais, se permet de, devant les caméras...
Bah, il a un radar à mine c'est tout. Oh là là.
Et on parle d'une ONG faire le tri. Et ensuite, ces personnages, qui sont donc à la botte de l'État et de la police... et qui collaborent avec eux. À Calais, on a demandé lors du démantèlement à des travailleurs sociaux de mettre des bracelets de couleur à des hommes qu'on a triés en fonction de là où ils allaient être orientés. Donc, il faut quand même... C'est une logique de tri violente. Hein. Je veux pas rappeler les heures les plus sombres, voilà, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là où on trie les gens au faciès. Non, mais je suis désolée, je suis pas une adepte du point Godwin. J'ai été obligée de m'y résoudre à force de travailler sur cette question.
On manque de comparaison possible, en fait, au bout d'un moment.
C'est ça. Voilà. Donc on a vraiment cette logique qui explose totalement le travail social comme un travail de prestation de l'État et où on peut être sorti si on ne remplit pas le contrat et un travail de supplétif de la police.
La directrice de Toulon là disait je comprends pas pourquoi en fait ils utilisent des associations parce qu'on est des simples opérateurs. Donc pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes, la préfecture? Pourquoi ils n'emploient pas des gens pour gérer ces Dublinés dans les CAO? Pourquoi ils n'envoient pas des gens, des policiers surveiller des gens dans les CAO? Pourquoi c'est nous qui devons assumer
cette position? Ça donne pas forcément les bons résultats, la coopération directe, enfin l'intervention directe de la police dans les centres d'accueil. Justement, d'ailleurs, je me tourne vers les petits Sam qui a une autre histoire à nous raconter, hein, qui a une structure particulière. Donc, présente-toi et présente cette structure.
Alors, bonsoir, je m'appelle Ipti Sam. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça fait à peu près 16 ans, presque 17, que je travaille en tant qu'éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Et depuis moins d'un an, je me suis engagée dans la défense des salariés. Et plus particulièrement depuis que j'ai un mandat en décembre de l'année dernière. Et j'ai été amenée à visiter une structure qui accueille des mineurs isolés étrangers, donc un SAMI, Service d'accueil des mineurs isolés étrangers, dans la Marne. J'y suis allée, j'étais assez choquée des conditions d'accueil des jeunes par rapport à la vision classique que j'avais de mes 16 ans d'expérience sur l'accueil de la protection en danger, où il y avait 4 éducateurs, 73 jeunes, pas de personnel la nuit à partir de 18h. Ces jeunes-là partageaient le bâtiment avec d'autres personnes majeures en grande précarité et avec des problèmes d'addiction, qui sortaient de problèmes d'addiction, avec une intervention de temps en temps de la police des raies frontières pour venir mettre en garde à vue les jeunes.
Dans le SAMI,
voilà. Donc quand j'ai constaté ça en fin de l'année dernière, j'ai interpellé mon délégué syndical. Et comme ça faisait un an que ça fonctionnait de cette manière-là, on a décidé de voir ça à la rentrée et d'en discuter entre nous, parce qu'on venait d'être nouvellement élus. Et bah, malheureusement, quand on s'est rencontré le 8 janvier au matin, donc on en discute, je fais constater un certain nombre de choses, hein, donc je vous passerai les détails. On décide de provoquer un CHSCT extraordinaire. Mmh. Et avant même de remettre le courrier dans l'après-midi, j'apprends la défenestration d'un jeune mineur isolé qui aurait eu 17 ans au mois de mars, Denko Sissoko, qui s'est jeté du 8e étage. Alors, ça s'est très vite enchaîné. J'ai, par voie de presse et radiophonique, dénoncé les conditions d'accueil des mineurs isolés étrangers sur ce service, en particulier de manière générale aussi, parce que je savais très bien que ça faisait débat dans la France. Et plutôt que de prendre cela comme de la critique, l'employeur a engagé une procédure de licenciement contre moi pour dénigrement de l'entreprise et critique du conseil départemental. J'ai été mise à pied pendant 2 mois avec une retenue de salaire. L'inspection du travail a refusé le licenciement, bien heureusement. Mais cette expérience, en fait, m'a ouvert les yeux sur une arrière-boutique que j'étais loin d'imaginer. Mmh. Dans la mesure où on a dit tout le long de l'histoire, que tout le long de l'émission, que les mineurs bénéficient de la protection de l'enfance, quelles que soient leurs origines. Ce sont des textes de loi.
Mmh. Ordonnance de 45.
Et article 75 du Code civil plus particulièrement. Mmh. Depuis la circulaire Taubira et l'application qu'en ont fait les collectivités, où on a des principes dérogatoires sur la prise en charge de ces mineurs-là, on commence à avoir une protection de l'enfance à deux vitesses. Voilà. Vous avez clairement une protection de l'enfance pour les enfants français, mmh, et vous avez une protection de l'enfance pour les mineurs migrants. Mmh. Il y a de la discrimination dans la prise en charge, de la discrimination dans la prise en charge financière, dans ce qui est proposé. Je dirais même pire, pour avoir discuté avec pas mal de travailleurs sociaux suite à ce qui m'est arrivé, à une volonté de brimer la parole des travailleurs sociaux, de les faire taire, des directives qui sont parfois illégales, interdire les jeunes par rapport à leurs droits, les mettre en lien avec des avocats.
Interdit un contact avec...
Voilà, on interdit aux travailleurs sociaux de mettre en lien, mm-hmm, ces jeunes-là avec des avocats ou faire valoir leurs droits. Plus ils restent dans l'obscurité de leurs droits, mieux c'est pour ça. Et en fait, ce sont des machines à broyer que des départements ont mis en place, qui sont des volontés politiques, où on veut prouver absolument qu'un mineur est majeur, à tout point. On a 80% en France de rejet, de classement sans suite, on reconnaît qu'on dit qu'un mineur est majeur et qu'on remet en cause sa minorité. Alors qu'en Suède, par exemple, quand ce sont des dispositifs beaucoup plus clairs, on est à 40%. Voilà. Vous avez des mineurs qui, une fois qu'on les a reconnus majeurs, sortent du dispositif. Le 115 vous dit, t'as des papiers qui disent que t'es majeur, je peux pas te prendre en charge. Mm-hmm. Mais je suis considérée par mineur par le département. Donc, c'est une espèce d'entre-deux. Des départements, je situerai ça au mois de septembre, l'année dernière, en discutant avec certains salariés de départements différents, mettent le paquet en prenant des avocats qui ne font que ça. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont, une fois que le mineur fait un appel sur une fois qu'il fait appel de sa décision par rapport à cette minorité, des avocats ne sont payés que pour ça, pour aller en cour d'appel et prouver absolument qu'ils sont majeurs. Ils mettent de l'argent là-dessus. Ce qui m'a aussi désolée, c'est de voir que quand les mineurs sont mis à la porte, ceux qui prennent le relais sont des associations. Mmh. Donc ERSF, ce sont des citoyens qui vont faire le travail que devraient faire normalement les éducateurs spécialisés ou qui est de la responsabilité de l'État et des départements. Et on fait peser sur les citoyens la prise en charge de ces jeunes-là, qui mènent un combat. Alors, leur combat, il est vraiment parfois parsemé de cours d'appel, de refus de scolarité par les départements. Sur la structure de la Marne, par exemple, vous avez des jeunes qui peuvent rester des mois sans être scolarisés.
Oui, effectivement, on fait peser sur des citoyens et des militants la responsabilité de donner accès à leurs droits à un certain nombre de personnes, mais on ne fait pas peser que cette responsabilité sur ces personnes-là. On les poursuit. C'est-à-dire que aujourd'hui, le délit de solidarité a été réintroduit en France. Donc, parce que des mineurs isolés, des mineurs étrangers, migrants qui viennent d'arriver, ne sont pas hébergés, certaines personnes prennent la responsabilité de les héberger, ces gens-là sont poursuivis.
Alors, si je résume...
C'est le cas de Cédric Héroux.
Oui.
Ou alors, parce que l'État envoie la police chasser des gens qui dorment sur les trottoirs à Stalingrad, eh bien, des personnes s'opposent. C'est le cas de Oussam El Hassimi, qui passera en procès le 5 mai à Paris. C'est un peu notre Cédric Héroux parisien, faudrait pas l'oublier, pour s'être opposé à une rafle. Voilà. Donc en fait,
c'est dans les Alpes-Maritimes, hein, c'est ça. Voilà. Je rappelle la situation de Cédric Héroux. Donc c'est un paysan dans les Alpes-Maritimes dont le terrain est juste contigu de la frontière et qui donc avait des migrants qui se retrouvaient chez lui après avoir passé la frontière. Et c'est ça.
Il y a une autre jeune fille qui s'appelle Francesca qui est passée en procès là le 4 avril dernier.
Voilà. Donc effectivement, alors on a une triple contradiction. D'abord, on ne donne pas les moyens. On ne débloque pas des moyens qui permettent de faire travailler dans des bonnes conditions des travailleurs sociaux. Donc on les laisse tomber au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on leur donne des tâches impossibles, si j'ai bien suivi. On veut bien des bénévoles, mais s'ils entendent rien, s'ils parlent pas, s'ils voient pas ce qui se passe et qu'ils jouent les petites mains, donc des mains sans tête, c'est ça, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et quand les gens, en tant que bénévoles ou en tant que citoyens ou en tant que militants, décident de prendre les choses en main parce que c'est pas possible, on les poursuit.
D'accord, on les perçoit ou bien on les éjecte.
On les éjecte.
Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est difficile pour les salariés, c'est que à la mainmise, la prise en charge des mineurs à l'étranger, c'est de la responsabilité du département. Mmh. On sait que le département finance toutes les associations.
Oui.
Voilà. Okay. Donc il suffit que vous parliez et que vous opposiez, vous êtes stigmatisé et vous savez que vous êtes grillé dans tout le département pour un emploi.
C'est ça.
Voilà, c'est extrêmement. Enfin, on est face à une espèce de machine où préfecture, département, dirigeants associatifs sont tous les trois mêlés à tout ça. Et quand vous êtes seul, vous êtes seul. Donc, à part le combat syndical en interne, je vois pas ce qui est possible.
Et toi, la seule raison pour laquelle ils ont pas réussi à durer, c'est donc justement le mandat et la protection de l'inspection.
Le mandat, l'inspection du travail, qui effectivement a fait une enquête de fond et a bien vu que je parlais en tant que mon mandat. Après, moi, ce que je déplore, c'est le dévoiement des travailleurs sociaux. Mmh. Nous, notre métier, c'est pas ça, et absolument pas ça. On a comme ça, il y a une espèce comme ça de, je sais pas comment je pourrais expliquer, mais les militants ont fini, voilà, de glissement. Les militants ont fini par faire notre travail. Et nous, éducateurs spécialisés, on a fini par devenir, des fonctionnaires, mais sans les avantages et avec moins de protection.
Mmh. Et justement, il y a un sociologue extrêmement intéressant qui s'appelle Mathieu Ely, qui travaille sur la question, qui explique que le monde associatif, c'est en fait la quatrième fonction publique, celle qui, en gros, la variable d'ajustement sur laquelle s'appuie l'État. Et qui ne fonctionnarisent pas en fait ces gens qui travaillent dans les associations, parce que ça permet de faire des CDD et d'avoir une variable plus souple en fait. Hein. On peut virer bien plus facilement ces gens-là. Et du coup voilà, enfin c'est vraiment il a cette théorie sur cette question.
J'ai
voilà.
découvert de récemment la cinquième roue du carrosse, car il y a une cinquième roue du carrosse, il y a toujours une roue de carrosse en plus, vous savez. En plus de ça, il y a maintenant les merveilleux services civiques qui sont payés au lance-pierre pour faire tout le taf dont ni les fonctionnaires ni les associatifs ne veulent. Voilà.
Alors, les services civiques, par exemple, sur la question des migrants, ils vont gérer la file d'attente devant la superbe bulle du centre de la chapelle.
Ben voilà.
Voilà, par exemple, c'est une des missions des services civiques.
On fera une émission spéciale sur les services civiques parce que c'est une forme de précariat qui, en ce moment, est en train d'être généralisée à plein tube. Donc, on reviendra là-dessus.
Pour les jeunes, c'est le CPE en pire.
Ah oui, c'est ça. C'est le CPE en pire, et cette fois-ci, il n'y a pas eu des milliers de gens dans les rues, parce que vous comprenez, c'est civique, et logique. Donc,
bientôt, ça sera le service militaire.
Et c'est Martin Hirsch, l'ancien responsable associatif, qui a inventé ce
concept. Et oui. Donc voilà, donc
et
on voit bien qu'il y a.
Le pourvoyeur de l'hôpital public.
Et tout ça, le problème, c'est que vraiment, toutes ces régressions, moi je voudrais conclure en disant ça, il ne faut pas se laisser piéger, parce que toutes ces régressions qui sont des régressions, ce sont des régressions pour le travail social, ce sont des régressions pour la conscience des citoyens et l'implication possible des citoyens, c'est des régressions à tous les niveaux, on nous les fait accepter à cause de l'urgence, à cause des questions d'obligation de charité. Donc on est obligé il y a une obligation de solidarité qui est éthique, qui est un principe, mais le problème c'est que pour remplir cette obligation-là, on descend les exigences et on devient de moins en moins, comment dire.
En prétendant que l'État est ruiné.
Voilà. Il n'y a pas une obligation de charité, hein, de solidarité. Il y a un choix de société qu'on a à faire. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, l'argent qui a été mis dans le CICE aurait pu être mis dans un accueil digne des migrants. Donc c'est vraiment une question politique et un choix de société.
Voilà. Donc on a malheureusement pas tout dit, mais on a quand même fait le tour. Et donc derrière donc la crise entre guillemets, puisqu'on a vu que c'était pas vraiment une crise, enfin en tout cas c'était gonflé à l'échelle de crise par les médias, derrière cette crise il y a des salariés, il y a des personnes en souffrance, il y a les migrants qui sont mal accueillis et en dessous des normes qu'on devrait s'imposer, et parfois il y a des drames comme à la sauvegarde dans la Marne. Je vous remercie d'être venu, hein. Bon, je remercie encore Christophe qui veut plus nous entendre.
Merci de nous avoir invité.
C'est un plaisir. On en refera une, vous inquiétez pas. Voilà. Et voilà, donc toujours en train de pallier des défauts techniques. Mais en fait, une bonne nouvelle nous est arrivée. Pendant que nous passions donc de la musique, hein, sans rien faire, quelqu'un nous a appelé. Une personne est au téléphone. Allô ?
Bonsoir.
Bonsoir, c'est qui ?
C'est Petit Sam.
Petit Sam, c'est incroyable. On passait justement un morceau d'émission sur toi. C'est incroyable ça que t'appelles.
Quel hasard.
Bon, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait un hasard, parce que en fait, depuis l'émission qui, donc je le rappelle, était en avril, on en était resté au refus de l'inspection du travail.
Tout à fait.
C'est ça. Donc l'inspection du travail avait refusé, on s'est dit bon, affaire close, mais non.
Non. Le 23 mai, l'employeur a fait un recours hiérarchique auprès du ministère.
C'est quoi un recours hiérarchique?
Alors, quand l'inspecteur du travail refuse un licenciement d'un salarié, l'autorisation administrative d'un licenciement d'un salarié protégé, s'offre la possibilité à l'employeur soit de faire un recours gracieux auprès de l'inspecteur du travail lui-même, soit un recours hiérarchique gracieux auprès du ministère du Travail, soit d'aller faire un recours auprès du tribunal administratif en contentieux.
D'accord.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'employeur a décidé de faire appel au ministère du Travail, hein, la DGT, pour contester la décision de l'inspection du travail, donc demander l'annulation, et qui se repositionne en faveur de l'autorisation administrative de mon licenciement.
Donc, j'ai raison quand même.
Oui.
C'est ça.
C'est-à-dire.
J'ai raison quand même.
J'ai raison non. quand même.
Voilà.
Donc, il faut savoir qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'inspecteur du travail, lui, a estimé est parti sur l'arrêt Patarin en disant c'est dans le cadre de son mandat. Donc vous pouvez pas aller sur un terrain disciplinaire dans le cadre de son mandat. Ensuite l'employeur lui a rétorqué si elle a même dans le cadre de son mandat, elle a entre guillemets outrepassé ses droits et fait des manquements à son obligation de réserve. Et donc du coup nous on estime qu'on a été dénigré. Nous voulons son licenciement tout de même. Alors, on s'en est suivi encore une fois une procédure qui, sur le coup, le ministère du Travail renvoie une demande d'enquête auprès de la directe,
ouais.
La hiérarchique de l'inspecteur du travail, qui remène un débat contradictoire, qui renvoie cette conclusion au ministère du Travail, et le ministère du Travail tranche. Donc j'ai été convoquée le 25 juillet à la directe de Nancy,
ouais.
Et le 16 septembre, le ministère a refusé l'inspection, refusé l'autorisation administrative sur un fait plutôt de droit. C'est-à-dire qu'il a estimé qu'il y avait un vice substantiel dès le premier instant de la procédure. Il a méconnu les 5 jours ouvrables entre le moment où on notifie mon entretien préalable, le licenciement et que je suis reçue. Il n'a pas été cherché plus loin, il a statué que sur la forme.
D'accord.
Par contre, il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en disant qu'il aurait dû quand même aller jusqu'au bout, même si c'était en cadre de mon mandat, voir si j'avais outrepassé mes droits. Voilà. Donc si on... Si je devais revenir sur cette histoire, bon, il reste encore un recours, hein, qui est très administratif, hein, pour l'employeur.
Mmh. Il y a jusqu'à quand?
Il a 2 mois à compter de la notification, donc on va dire jusqu'au 20 novembre. Voilà, jusqu'au 20 novembre. Quand je reviens sur cette histoire, quand j'ai reçu la réponse, j'en étais pas non plus. J'ai pas fait une grosse fête. Hein. J'étais pas plus heureuse que ça pour différentes choses. C'est que la première chose, alors c'est peut-être mon côté un peu poitieux, c'est que j'aurais aimé qu'on ait un vrai débat de fond sur cette histoire, qui n'a du coup pas eu lieu, parce que l'histoire s'arrête, elle s'arrête sur un vice de procédure et pas sur le fond, à savoir est-ce que vraiment il y a eu, est-ce que j'avais le droit à cet instant de dénoncer les conditions d'accueil de ce service-là, dans ce cadre-là. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas d'explication sur le geste suicidaire ou accidentel de Denko Sissoko, puisque le procureur les parents ont déposé plainte et le procureur a décidé de classer sans suite. Il a estimé que les conditions prises en charge selon lui étaient suffisantes, mais qu'il n'a pas su déterminer si c'était un geste suicidaire ou accidentel.
Ils ont classé la plainte, c'était la plainte de
des parents.
Des parents. Ils ont classé la plainte des parents.
Voilà. Ouais, d'accord. Les parents qui ensemble quand même saisir un juge d'instruction. Voilà. Et puis la question, il y a plein de choses en fait sur lesquelles j'ai envie de revenir. Il y a la question de la parole syndicale. Voilà. Oui. Cette parole-là.
J'allais l'aborder. Vas-y.
Voilà, dans le sens où moi je campe sur ma position, à savoir qu'on est libre de critiquer les conditions de travail des salariés, libre de s'interroger autour l'accueil des mineurs isolés étrangers, puis libre d'être à contre-courant d'une politique austère et gestionnaire. Et cette parole-là, je pense qu'elle est extrêmement importante. On voit bien que quelque part, celle qui est garant de cette parole reste la directe, qu'on le veuille ou non, même malgré parfois des liens pas souvent d'amour, parce qu'on sait très bien que les institutions sont les personnes qui les valorisent ou qui les dévalorisent. Dans ce cadre-là, en tout cas, c'est bien cette institution qui va dire non. La parole syndicale est importante pour diverses raisons, pour des questions de forme. En tout cas, elle a lieu d'être et on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il s'exprime dans le cadre de son mandat.
Oui, c'est ça. Pour revenir sur l'origine, c'est une affaire d'hygiène sécurité aussi pour les salariés. C'est ça que voilà, on focalise sur cette soi-disant. Comment ils appelaient ça? Ils ont dit c'était pas une diffamation, ils ont pas appelé ça. Des dénigrements, voilà. On focalise sur ce dénigrement, alors qu'il y a effectivement un drame qui s'est passé et que par ailleurs, les salariés aussi du centre ont vécu ce drame.
Tout à fait.
Et c'est quelque chose qui était déjà dénoncé en délégation du personnel.
C'était quelque chose, enfin non, parce que c'était un service qui était nouveau et que d'accord. Justement ce que je dis moi, c'est que parce qu'on n'a pas consulté à l'époque les instances représentatives sur les modifications de conditions de travail, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté une capacité des suivis, on est passé de 50 suivis à 80 sur ce service-là par exemple, on a aménagé des pièces dans une cave, et moi je pense que si on avait respecté le cadre législatif des instances représentatives et qu'on les avait consultées sur des choses qui sont de leurs prérogatives, peut-être que ça aurait amené une réflexion sur ce service, sur la manière dont il a été pensé, sur l'impact sur les salariés et forcément après sur les usagers. Je ne dis pas qu'on peut éviter les drames, je dis qu'on peut les prévenir et que à partir du moment où on laisse la place à un débat, il ne peut émaner, je pense, que du positif pour les salariés. Mais quand l'employeur décide, ou en tout cas par omission, par négligence ou par méconnaissance, de venir consulter les instances représentatives, ce qui relève de leurs prérogatives, moi je pense que ça peut être effectivement un danger pour une entreprise ou une association. Voilà.
Oui.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a deux aspects, en fait. Il y a l'aspect mandat comme instance, effectivement, d'alerte et de veille et de contrôle, on va dire, sur ce qui se passe. Et il y a le mandat syndical qui est aussi de dénoncer une situation, de plaider les intérêts matériels et moraux des salariés qui y travaillent, et y compris à contre-courant d'une logique austéritaire. C'est pas tout à fait la même chose, effectivement, mais les deux rôles ont été pris à partie, en fait, dans cette affaire. C'est ça, hein, en même temps.
Voilà, tout à fait. Et là où aussi je suis pas très satisfaite, c'est que quand je dénonce la précarité de la question des mineurs isolés étrangers, je dénonce aussi du coup la précarité des travailleurs qui exercent auprès de ces usagers. Et moi, ce que je constate, c'est que il n'y a pas forcément des choses qui sont re-questionnées en profondeur sur le territoire. Bon, l'agenda veut que dernièrement, là, aujourd'hui, hier, Edouard Philippe a commencé à mettre des annonces autour de la question des mineurs isolés étrangers, sur la rallonge auprès des départements. Là, ça commence un peu à bouger. Il y a des ouvertures de débats entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice autour de cette question-là. Donc, ça commence à brûler. Voilà, on verra ce que ça va donner. L'argent sort et on commence à prendre une réflexion sur qu'il y a un vrai problème sur la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Et je ne peux être que satisfaite de ça, parce que là, encore une fois, s'il n'y avait pas du travail syndical, des représentants du personnel dans les institutions, telles que je l'ai fait de mon côté au département de la Marne, comme le fait d'autres personnes d'autres départements, c'est pas des choses qui émanent comme ça. On reste quand même sur un silence assez consensuel. On revient sur un autre sujet, c'est celui de la précarisation des travailleurs sociaux. Moi, ce qui me questionne autour de ce corps de métier, des dérives qu'il peut y avoir, c'est que s'ils sont tant silencieux sur la question de leurs conditions de travail, c'est qu'on les y a amenés. Et que on n'a pas cessé de rabâcher aux travailleurs sociaux l'obligation de discrétion professionnelle, l'obligation de réserve, qu'on aura fini par croire qu'ils étaient apolitiques, qu'ils n'avaient pas leur mot à dire là-dessus. Et moi, je pense que là, encore une fois, on se trompe. Et que, voilà, on n'est pas, quand on est un travailleur social, on n'est pas là que pour exécuter un contrat ou aussi au service d'une mission, et que les syndicaux, en tout cas les moins représentants personnels que je suis, viennent remettre un peu, entre guillemets, un débat. Mmh. Parfois est étouffé par l'austérité, par la volonté en tout cas de l'employeur qu'on exécute les choses sans qu'on ait pas trop notre mot à dire, même quand il s'agit d'humains.
Mais dans le travail social, il y a cette particularité qu'il faut dénoncer des situations qui sont inacceptables, en fait. Ça fait partie du boulot, non?
En fait, c'est une dérive, c'est-à-dire que c'est pour ça que, là, quand je disais est-ce qu'on est exécutant d'un contrat de travail ou au service d'une mission, c'est parce que, justement, on a fini avec le temps à opposer les deux choses. Il y a quelques années, enfin, je veux dire qu'en machin, quand on parle parfois d'enfants et de classement, il y a un nouveau vocable qui existe, c'est celui de gestion de flux de stock. Alors, comme on parle des gamins, moi, je pense que avec les années, on a formé les travailleurs sociaux justement pour qu'ils soient assez formatés, qu'ils soient politisés, que ça a été une volonté qui a été même jusque dans les centres de formation, qu'on a voulu former des professionnels qui ont un certain savoir-faire avec de l'assistance.
D'accord.
Et ben, on a
Mais c'est ça, ouais.
Et donc, je pense que, du coup, on a résigné les éducateurs pour mieux résigner les gens qui souffrent, tout simplement.
D'accord.
C'est-à-dire qu'un éducateur qui apprend un travailleur social qui apprend à accepter son sort en silence, il est le mieux à même de faire accepter à l'autre qui souffle en marge de la société, qu'en souffrant, en silence.
Ouais.
Voilà.
C'est ça.
Je pense aussi que les travailleurs sociaux, ils sont comme ça à la marge. C'est eux qui sont... du côté des plus exclus de la société, des pauvres,
Donc il faut qu'ils soient. Donc dans la logique, on va dire des pouvoirs publics capitalo-centrés, il faut qu'ils soient un bon frein juste comment dire. Il faut qu'ils fassent. Oui, il faut que même en baissant la tête, ils fassent baisser la tête à leur public, quoi.
Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on s'est dirigé. Malheureusement, après, j'ai pas de prétention à mettre, enfin, je suis pas une réponse comme ça toute faite, mais effectivement, je pense qu'il s'agit de ça. En fond, c'est ça, et c'est ça qui me pose difficulté, et ça s'est vu d'autant plus avec la question des migrants, des étrangers, et ça c'est. Et moi, je pense que l'idée que si les travailleurs sociaux relataient tous les jours ce qu'ils voient au quotidien sur la souffrance des gens, sur la manière dont ils traitent, sur la manière dont ils bafouent leurs droits. Voilà, il y aurait pas mal de politiques effectivement qui seraient mal. Et je pense que comme nous sommes témoins de tout ça,
il est particulièrement important de vous faire fermer la bouche, quoi. C'est ça.
Voilà. Ouais. C'est pour ça que dans ce jeu, je comprends, moi, c'est très compliqué. Hein, le travail est à flux tendu, même pour les travailleurs sociaux. Mm-hmm. Je comprends qu'il soit compliqué d'avoir en même temps. Un contrat à exécuter, puis en même temps avoir des principes et se dire, peut-être aussi que ce qu'on me demande de faire, c'est pas forcément bien pour, pas forcément parfois légal ou c'est pas forcément d'éthique. Et je pense que justement, là encore une fois, c'est la parole syndicale. C'est elle qui vient, qui prend sur elle, qui porte sur elle des choses qu'on n'ose pas dire, pour éviter de, qu'on n'ose pas dire, on a peur d'éventuelles représailles, et c'est bien le représentant du personnel qui accepte par son mandat de porter ça, même si c'est après effectivement lui-même d'autres représailles. Parce que protéger n'est pas si protégé que ça, hein. Je veux dire, depuis le mois de janvier, ça a duré 9 mois, ça m'a extrêmement épuisé sur la fin. J'avais écrit un papier et je disais que ça m'a valu des bleus à l'âme. Mais que je préférais ces échymoses à mon silence qui provoque une vraie nécrose.
Ouais,
c'est-à-dire que je préfère effectivement avoir souffert, d'avoir parlé et d'avoir mis sur la place publique un débat qui avait lieu d'être que me taire, parce que me taire aurait été renoncé. Et si un représentant du personnel renonce, je laisse imaginer pour les autres salariés, c'est foutu, quoi. Voilà. J'avais pas le choix, en tout cas. Il fallait que j'aille jusqu'au bout des choses.
Ben c'est très compréhensible, hein, comment tu l'expliques. Effectivement, on est en devenant syndicaliste, en se mettant en avant de cette manière-là, on devient effectivement le vecteur et le réceptacle de pas mal de choses qui sont pas dites sinon. D'où l'intérêt, enfin, effectivement, de défendre, comme tu dis, à la fois le mandat, la mission du syndicaliste, à la fois comme défenseur des autres salariés, comme éclaireur un peu de ce qui ne va pas dans une profession donnée. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le dise, quoi. Oui, je m'accorde avec toi. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, ouais, dans l'émission d'avril, tu avais soulevé donc que tu avais l'impression que, en fait, depuis l'année d'avant, il y avait une véritable organisation par les pouvoirs publics et notamment les associations aussi, des procès en majorité, en fausse majorité ou des choses comme ça, les pouvoirs publics se mobilisaient pour faire passer un maximum de gens majeurs. Tu constates la poursuite de cette tendance ou pas?
J'ai été auditionné il y a 15 jours dans le cadre des auditions parlementaires sur la question des mineurs non accompagnés. Mmh. Et ce qu'on a tous constaté, on était autour de la table des acteurs, il y avait un représentant du JSTI, un représentant des mineurs isolés étrangers. Et effectivement, depuis quelques mois, on remarque que il y a eu une augmentation du refus de certains jeunes à l'accession à la reconnaissance de la minorité de manière générale sur tout le territoire.
Ouais.
Et nous, ce qu'on suppose, c'est qu'en fait, les départements, pour éviter une explosion de leur prix de journée, ils savent qu'ils ont un quota et qu'il faut qu'ils restent sur ce quota, et qu'en fait, pour rester sur ce quota,
on bascule les gens dans la majorité.
Voilà.
Waouh.
Alors après, moi, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais bon. Pour connaître des militants sur Paris qui parfois m'envoient des photos de jeunes qui sont refusés au faciès, des fois ils ont des bouches de 13-14 ans, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas à tergiverser sur leur minorité. Alors, là encore une fois, on va rester vigilant. On voit bien qu'il y a des questions, qu'il y a un débat qui s'est ouvert. On voit bien qu'on va mettre un peu d'argent sur la table. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'État a décidé qu'apparemment l'évaluation ne relèverait plus du département, mais de l'État. C'est-à-dire que vraiment, les jours d'évaluation, c'est le département qui évaluait, et après il acceptait si c'était mineur ou majeur. Là, l'État dit, maintenant, c'est à ma charge, sauf que moi, l'État...
C'est qui l'État? C'est la préfecture, quoi. En fait.
L'État, ça va être qui? Alors, ça tue, on est extrêmement inquiets. Donc, ça veut dire que encore une fois...
Juste une seconde. La préfecture qui est chargée d'expulser en temps normal, c'est ça, en fait, va s'occuper également de dire ce qui l'expulse.
Voilà, on ne sait pas ce que veut dire État. L'État va prendre en charge l'évaluation des minorités et des jeunes. Ça veut dire qu'encore une fois, alors qu'on a signé les accords internationaux sur la Convention des droits de l'enfant, on préfère encore une fois voir en eux leur migration que leur minorité. C'est-à-dire qu'on les fait passer encore sur un principe dérogatoire. Normalement, un enfant, c'est la compétence du département, c'est l'enfance en danger. Là, on dit, non, nous, on vérifie au préalable. Donc, on vérifie déjà s'il est mineur ou majeur parce qu'il est migrant. Ah, c'est ça, t'inquiète.
C'est ça, déjà, pour commencer.
Voilà, déjà. La deuxième chose, c'est que nous voulons, en tout cas, nous avons demandé avec les acteurs avec qui je travaille, qu'il y a l'administrateur ad hoc dès l'évaluation, dès les premiers entretiens, parce que on estime que leur droit est bafoué, que c'est mieux d'avoir un administrateur ad hoc. Au moins, on est sûr que tout le long de la procédure, il sera au fait de son droit. On demande que, malgré qu'il soit refusé une première fois sur sa minorité, et ben, qu'il se retrouve pas à la rue et puis qu'on le scolarise quand même. C'est-à-dire que le recours est suspensif.
Ouais.
Parce que on gagne sur des recours contre le département.
Mais en attendant, la situation est foutue. C'est ça, en fait.
Voilà.
Jusqu'ici, c'est ça.
Parce que parfois, vous avez, moi, j'ai eu une situation où un jeune, il a passé un an et demi à reconnaître sa minorité. Il a été placé, reclassé. Et on a reconnu mineur la veille de sa majorité. Entre-temps, pas scolarisé, donc pas possibilité de régularisation.
D'accord, ouais.
Foutu à la porte à 18 ans, parce qu'il n'y a pas de contrat jeune majeur pour ces jeunes-là, pour la plupart. Ouais. C'était quand même assez compliqué.
En fait, ils ne basculent pas exactement dans la majorité, ils basculent dans un espèce de no man's land où ils sont plus mineurs, en tout cas, c'est ça.
En fait, voilà, c'est ça. Ils sont ni mineurs ni majeurs. Ouais. Si on n'est pas plus mineurs, on les considère comme majeurs. Mais en même temps, quand ils vont se présenter à des services sociaux, on leur dit ben, on ne peut pas vous prendre en charge, vous êtes mineur. Évidemment, quand c'est HRS, on ne va pas héberger un mineur. Là-dessus, on avance sur des petites questions comme ça. On voit bien quand même qu'il y a il y a un sursaut pas assez suffisant à mon égard. Et la dernière chose, c'est que on a toujours dit une seule cour de cassation pour un seul pays. Voilà. Ouais. C'est bien aussi parce qu'on veut que la loi s'applique partout pour tous et qu'il n'y ait qu'une seule institution qui vient, entre guillemets, remettre de uniformiser la loi. Ben, c'est le cas pour les minorités étrangères. On aimerait qu'on arrête, selon qu'on soit pris en charge par le Var ou à Rennes ou dans la Marne, qu'on arrête d'être suivi de manière complètement différente selon le département et qu'on applique les choses telles qu'elles existent.
Voilà. Est-ce que c'est... Enfin... La prise en charge par l'État ne signifie pas nécessairement une prise en charge harmonisée, parce que pour mon expérience avec les sans-papiers, ils savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés en fonction de la préfecture. Donc l'État peut parfaitement gérer de manière tout à fait inéquitable sur le territoire.
Il y a d'autres propositions qui sont un peu plus pointues. Mmh. Le défenseur des droits a aussi été entendu là-dessus.
D'accord.
C'est de dire on arrête que ce soit à discrétion qu'on facilite la régularisation de ces jeunes qui ont été pris en charge par l'ASE. Parce que c'est vrai que selon que tu arrives avant 15 ans ou après 16 ans, c'est de fait ou à la possession de la préfecture. Donc ça, effectivement, faut arrêter avec ça. Un gamin qui arrive ici à 14-15 ans, bien évidemment qu'à 18 ans, quand il est en apprentissage, qu'il a engagé une formation professionnelle, que tout va bien pour lui, ça sert à rien de laisser comme ça pendant des mois à attendre son sort et de laisser dans la précarité la plus totale. Parce qu'il faut savoir que ces jeunes-là, une fois qu'ils ont 18 ans, des fois, ils attendent 6-7 mois d'avoir leur papier. Puis vous avez des contrats d'apprentissage qui leur passent dessus. Ils ne peuvent pas aller envoyer les jeunes travailleurs. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, pour eux, un drame.
Ouais.
Ils ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir. Donc voilà, en tout cas, je trouve que ça bouge. Peut-être pas assez à mon goût, mais voilà. Alors, c'est passé en un jour, mais en tout cas, au sommet, ça prend les choses en main. Comment, je ne sais pas, mais on y veillera.
D'accord, on y veillera, effectivement. Donc, on te reverra. Pardon. Eh ben voilà. Bon, en tout cas, alors si j'ai bien compris, dans la manche dans la partie plutôt qui t'oppose à ton employeur, pour le moment, c'est manche gagnante deux fois et on n'est pas sûr qu'il fasse la belle, c'est ça en fait.
Voilà.
Ouais. Bon, on va croiser les doigts, hein, espérons qu'il soit pas trop bête, hein, parce que ça commence à ressembler à de l'acharnement. Et donc on va espérer que tu puisses reprendre un peu. Là, t'as repris le boulot là.
Là, j'ai repris le boulot à temps partiel.
Ok.
J'avais besoin un peu d'une période d'un petit peu d'adaptation. Et voilà, on se reconstruit, ça devrait aller.
Ok. J'espère. Ben, on est tous avec toi, hein. Toutes les missions, toute l'équipe, tous les auditeurs, toi-même, tu sais tout ça, quoi.
Merci.
Bah, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, c'était un petit tour de piste sur cette question-là, de nouveau, parce qu'il faut refaire des tours de piste, souvent, pour voir un peu l'évolution des choses. On va garder, bien sûr, un œil sur l'amélioration de l'accueil des migrants, des jeunes majeurs, des mineurs et isolés. On va espérer que la situation s'améliore pour tout le monde, y compris pour les salariés, donc, de ces structures. On va se mettre un petit peu de musique pour se rappeler le pays et on va se quitter là-dessus.
Tungavare, tungavare, tungava mamangan tanana misenai, tungava zam sala salawa, tungava manarakani arabe, sem tundra makane. Tungavare, tungavare, tungava mamangan tanana misenai, tungava zam sala salawa, tungava manarakani arabe.